Le réseau des chambres de métier et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CSA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bienvenue dans CSA La France, l'émission qui met en avant ceux qui innovent, ceux qui font bouger la France. Nous sommes à nouveau confinés, la France est en télétravail, donc ce matin on va s'intéresser à la restauration en entreprise de demain. À quoi ressembleront les cantines d'entreprise ? Le défi sanitaire du coronavirus nous oblige à se réinventer, à transformer ces cantines d'entreprise, donc c'est la fin du libre-service. Aujourd'hui, on a les frigos connectés, les réservations de plats, les livraisons à domicile pour les télétravailleurs. Donc tout à l'heure, je vous ferai découvrir justement la première cantine digitale zéro déchet qui veut du bien à votre santé et à la planète, c'est comme ça qu'elle se définit. Mais tout de suite, j'accueille mon premier invité, Paul Kipour, directeur de la transformation chez Elior France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Paul Kipour.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Elior, nos auditeurs de Sud Radio, Elior et Sodexo, vous êtes les deux principales entreprises de fourniture de cantines dans nos bureaux. Votre modèle économique, bon, il est basé jusqu'à présent sur la signature de contrats avec des entreprises pour la fourniture de repas sur le lieu de travail. Mais avec le confinement, le télétravail, il vous faut vous réinventer et du coup, il faut repenser ces cantines de demain.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais après, le confinement, finalement, pour nous, n'a fait qu'accélérer une tendance qu'on voyait depuis un moment, finalement, dans les entreprises, puisque le télétravail a commencé à se structurer, finalement, depuis plusieurs années. Et c'est vrai que donc le confinement a accéléré cette tendance. Et on avait observé aussi depuis longtemps, finalement, un rajeunissement des populations, en fait, dans les entreprises, avec des nouveaux modes de consommation, des nouvelles attentes.
Alors, quelles sont ces nouvelles attentes, justement, des consommateurs ?
Les nouvelles attentes, en fait, elles sont au niveau de la transparence, en fait, sur les approvisionnements et sur la nutrition.
Donc, la traçabilité.
Voilà, tout ça. Et ça, ça fait vraiment partie de notre cœur d'expertise en tant qu'acteur de la restauration collective. Et ensuite, il y a vraiment des nouveaux modes de service, donc qui sont inspirés de la restauration commerciale, comme le click and collect, la possibilité de réserver les repas et de pouvoir déjeuner à toute heure, à tout moment et à tout endroit.
Alors, est-ce que vous avez justement quelques innovations, on va dire, qui pourraient nous étonner et qui vont maintenant faire partie de notre quotidien ? Je pense notamment à nos auditeurs de Sud Radio qui sont soit en télétravail, soit en entreprise, encore aujourd'hui.
Tout à fait. Donc, nous, on a instruit, en fait, la révolution, en fait, de notre façon de faire en entreprise avec un nouveau modèle qu'on veut vraiment flexible dans le temps, flexible dans l'espace, mais comme je vous l'ai dit auparavant, vraiment inflexible sur la qualité. Et oui. Donc tout ça s'accompagne d'un certain nombre d'innovations.
Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous pourriez nous donner, nous décrire ?
Oui, alors je vais déjà vous parler tout simplement d'un click and collect typiquement qui s'appelle Chaud Bouillant. Et donc c'est vrai, et c'est un nom qui est très intéressant, mais c'est vraiment innovant dans son mode de service, mais aussi dans sa qualité. C'est un click and collect où vous pouvez manger chaud. Et en fait, l'idée, et on l'a déjà testé donc sur l'un de nos sites pilotes, c'est de produire en fait l'offre de click and collect sur un restaurant sur lequel nous avons de la capacité de production du fait finalement des baisses de fréquentation dans les entreprises. Donc de produire les plats, les desserts, les entrées finalement à l'avance. Oui. De transférer finalement via un camion frigorifique pour permettre, si vous voulez, le maintien au froid et la sécurité et l'hygiène des aliments sur un site satellite qui ne peut plus se permettre d'avoir une cuisine sur place, de procéder à la remise en température, si vous voulez, du plat principal. Et en fait, les convives qui ont commandé à l'avance via leur application digitale viennent au niveau du point de retrait, récupèrent un sac en papier kraft.
À bonne température.
Et oui, tout à fait pour le plat, parce que le plat est dressé minute. Et ce qui le plat est dressé minute. Et donc en fait, l'offre n'est plus cuisinée sur site, mais concrètement, vous avez l'impression d'avoir une restauration collective de très bonne qualité avec un click and collect show sur votre site. Voilà.
Et on n'imagine pas toutes les innovations auxquelles il faut penser justement pour mettre en place ce type de nouveaux services. Comment elles sont accueillies ces innovations par les entreprises ? Parce que bon, c'est pas le même modèle économique. Est-ce que c'est plus cher pour elles à mettre en place ou pas spécialement ?
Non, pas nécessairement, parce que déjà, elles sont accueillies avec finalement beaucoup d'attentes et beaucoup d'entrain, puisqu'elles répondent en fait à des problématiques auxquelles ils font face aujourd'hui. Donc, la capacité déjà économique, puisque effectivement, parfois, elles n'ont plus les moyens d'avoir une production qui est sur place à cause de la fréquentation qui est très faible. Donc ça, c'est déjà une solution pour ne pas avoir ce problème-là et maintenir le coût total de la restauration. Ensuite, elles ont des attentes, si vous voulez, en termes de mode de service pour qu'il y ait assez de distanciation finalement entre les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est nos innovations digitales qu'on a créées finalement via notre écosystème d'applications à l'intérieur d'Elior et qui en fait s'insère bien dans tout ça et permet aux convives de commander de leur bureau et de pouvoir aller chercher à l'heure de leur choix sans nécessairement croiser tous les collègues pour pouvoir assurer la distanciation sociale majeure.
Mardi dernier, vous avez justement chez Elior créé un événement, un lab éphémère dédié justement à toutes ces innovations, ces expérimentations en matière de restauration d'entreprise. Donc c'est vraiment votre façon à vous de finalement de vous adapter à ce nouveau monde.
Oui, tout à fait. Et vraiment, ce qu'on a voulu à travers cet événement organisé lundi, c'est de sortir de l'incantatoire. Donc effectivement, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est capable de faire des innovations, de répondre à la crise sanitaire. Nous, on a voulu vraiment le montrer. Et ce qu'on a montré, ce sont les innovations en marche à tous les niveaux. Effectivement, donc je vous avais parlé de Click and Collect Show. On a aussi montré finalement notre capacité à animer des frigos connectés afin que
les collaborateurs.
Et ça, on est capable de le faire et on est capable de mettre plusieurs offres à l'intérieur parce que le frigo, finalement, n'est qu'un contenant. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre des offres qui sont soit préparées sur place, soit des offres que vous avez créées avec un partenaire traiteur comme Petite Brigade. Il y a vraiment différentes solutions. Et ça, ça permet aussi à votre collaborateur, finalement, d'éclater un peu la restauration sur site et d'éviter, finalement, que tout le monde se croise. Et ça permet aussi au collaborateur de prendre son repas le soir et de l'emporter chez lui. Et donc ça, ça répond aussi à une problématique du télétravail. Et ça, donc, le frigo connecté permet d'y répondre.
Toutes ces initiatives donc numériques, technologiques, entrepreneuriales, innovantes en lien avec l'alimentation, c'est ce qu'on appelle la food tech. Alors, dans la presse, notamment la presse professionnelle, on assiste chaque semaine à des levées de fonds de plus en plus conséquentes, pas seulement en France, mais également à l'étranger. Est-ce qu'on peut dire que finalement la food tech, c'est vraiment c'est une vraie tendance de fond?
C'est vrai que la food tech, oui, c'est une tendance de fond parce que effectivement, on a de multiples acteurs dans cette industrie qui sont agiles d'un point de vue logistique, d'un point de vue digital. Après, là, nous, effectivement, on veut s'inscrire effectivement un peu dans notre différence, c'est que nous, on a avant tout une ADN de restaurateur.
Oui.
Donc, la qualité qu'on a, c'est qu'on est capable effectivement de produire les recettes, de les concevoir d'un point de vue approvisionnement et d'un point de vue nutritionnel. Et là où effectivement, on a dû accélérer notre transformation, ce sont les sujets digitaux et logistiques. Et là, justement, à travers l'événement du 26, on a été capable de montrer finalement ce saut d'un point de vue digital avec des applications qui correspondent au code de la restauration commerciale et qui s'adaptent à ces nouveaux modes de service.
Donc votre volonté aujourd'hui chez Elior, c'est finalement de travailler avec ces startups qui sont nombreuses dans cet univers de la food tech pour créer des partenariats et avancer ensemble?
En fait, la façon dont on le fait, c'est qu'on a une certaine humilité. On a des choses qu'on sait très bien faire et ouais. C'est pour ça qu'on sort en fait des concepts en propre qu'on a créés de A à Z et qu'on est capable aujourd'hui de proposer à nos clients. Il y a des choses qu'on sait un peu moins bien faire et effectivement notamment sur le sujet de la livraison à domicile qui implique en fait une vraie connaissance des algorithmes logistiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien faire. Et oui, on s'allie avec un certain nombre de startups pour être capable de répondre à tous les besoins de nos clients et de ne pas laisser un seul de nos clients sans solution.
Et je pense notamment à la start-up iLunch qu'on va découvrir dans un instant, que vous connaissez bien, qui livre à domicile aujourd'hui les télétravailleurs.
Oui, tout à fait. Effectivement, on s'est allié avec iLunch pour pouvoir proposer cette solution aux convives de nos clients et pour pouvoir en fait avoir quelque chose de qualité. Et effectivement, iLunch, dans leur positionnement, ont une certaine ressemblance avec Elior sur les approvisionnements, sur leurs engagements nutritionnels et sur l'engagement RSE. Et c'est vrai qu'on ne veut pas forcément faire des partenariats avec des startups qui soient à l'encontre de nos valeurs.
Merci beaucoup Paul Kipour pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la transformation chez Elior France. Merci beaucoup et bon dimanche.
Merci beaucoup, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, on va se quitter une poignée de secondes et juste après, on se retrouve avec cette première cantine digitale zéro déchet. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio Cessala France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans Cessala France, l'émission qui s'intéresse justement aujourd'hui à la restauration d'entreprise qui se réinvente. Et tout de suite, on va rejoindre celle qui va révolutionner le déjeuner en entreprise.
Sud Radio Cessala France.
Bonjour Victoria Benaïm.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous êtes à la tête de iLunch, cette première cantine digitale zéro déchet. Racontez-nous un petit peu le concept de iLunch.
Island, c'est une plateforme de commande en ligne qui digitalise la restauration d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les collaborateurs des entreprises partenaires peuvent commander leur repas en ligne directement. La subvention employeur est appliquée et nous, nous les livrons directement en entreprise. Une fois livrés, soit on installe des corners où les collaborateurs peuvent venir directement récupérer leur repas, ou bien on installe de véritables cantines avec des animateurs de points de vente, comme on les appelle, qui vont assurer la vente et la distribution de repas additionnels. Et le point commun entre tout ça, c'est en effet, comme vous le disiez en introduction, le zéro déchet, puisque nous sommes pionniers dans la restauration d'entreprises livrées et zéro déchet.
Alors ça veut dire quoi le zéro déchet, concrètement ?
Ça veut dire que nos convives récupèrent un sac ou vont à leur café récupérer un contenant. Sauf qu'au lieu que ce soit un contenant dans des petits cartons ou des petits barquettes plastiques comme on
a l'habitude
voir,
de voir,
dans la voilà exactement dans la restauration livrée, nous on livre dans des contenants en verre qui sont consignés. Consignés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons installé des QR codes sur chaque contenant et à la fin du repas, auparavant le convive allait dans la poubelle et jetait ses déchets. Aujourd'hui, le convive à lunch, on l'appelle le luncher, va déposer dans un meuble de récupération de contenants qu'on installe dans les entreprises, son contenant qu'il aura au préalablement scanné. Et nous, à chaque fois qu'il rendra un contenant, on va lui rendre de l'argent. C'est un concept qui existait déjà il y a très, très, très longtemps et qu'on a remis au bout du jour. C'est la consigne, mais on l'a digitalisé. Donc, directement dans sa cagnotte à lunch, le convive va récupérer 2 euros à chaque fois qu'il va rendre un plat. 1 euro à chaque fois qu'il va rendre une entrée ou un dessert qu'il pourra utiliser le lendemain pour passer sa prochaine commande.
C'est bien, ça va inciter justement les salariés à avoir ce réflexe de recycler effectivement les contenants. Alors aujourd'hui, c'est uniquement pour les entreprises ou bien il y a également des livraisons possibles pour des particuliers qui seraient en télétravail mais qui n'auraient pas spécialement d'employeur hein, qui pourraient subventionner ces repas ?
Alors avec le premier confinement, on s'est posé la question de la restauration du futur. C'est un petit peu comme ça qu'on l'appelle nous chez iLunch. Et on s'est dit, c'est exactement ce que nous disait Emmanuel Macron hier, que nous allions très certainement devoir apprendre à vivre avec ce virus et que la façon dont on se restaurait avant le Covid va très certainement évoluer, que ce soit sur la restauration sur site, mais aussi la restauration en télétravail. Donc le télétravail s'est généralisé, et encore plus depuis hier soir. Donc nous, en sortie de confinement, on a créé le téléresto, qui est la cantine des télétravailleurs, donc que l'entreprise peut subventionner si elle le souhaite, hein, pour les collaborateurs en télétravail, mais pas forcément. N'importe qui peut commander sur la plateforme.
Ça coûte combien, justement, pour je pense aux auditeurs qui seraient intéressés, qui nous écouteraient, ça coûte combien un repas chez vous ?
Un repas livré à domicile, c'est 9 euros. Donc tout est fait maison, à partir de produits bruts, locaux, bio, de saison. Donc ça, c'est vraiment la charte qualité d'iLunch. Ouais. Et on peut commander des plats cuisinés directement sur la plateforme, mais également des produits d'épicerie que nous avons sélectionnés directement auprès des producteurs. Donc on achète directement chez nos producteurs locaux les produits qui sont mis à disposition sur
donc
la plateforme.
Donc le circuit court, la traçabilité, tout ça, ça fait partie des valeurs de iLunch.
Exactement, la transparence, la responsabilité, la traçabilité, tout ça est disponible sur la plateforme, que ce soit sur iLunch ou Téléresto pour les livraisons à domicile.
Vous avez senti un changement justement entre le premier confinement où peut-être que les entreprises n'étaient pas encore rodées à l'exercice, ou n'avaient pas pensé à ce système de livraison, et le deuxième confinement, celui qu'on est en train de vivre en ce moment ?
Oui, il y a une grosse différence. Lors du premier confinement, c'était assez brutal, personne n'était préparé et surtout le travail avait été complètement arrêté. C'était la généralisation du chômage partiel. Là, avec le deuxième confinement, on voit très bien que nos clients n'ont pas envie d'arrêter de travailler ou de faire arrêter de travailler leurs équipes. Ils ont envie de continuer à préparer le déconfinement, hein, puisque maintenant, maintenant, tout le monde travaille sur ça. Et l'idée, c'est de poursuivre le travail et de garder du lien. Ça, c'est très, très, très important pour nos clients aujourd'hui. On le voit. et ça passe par des repas cuisinés directement à domicile. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Et sur la partie personnelle, ce qui se passe, c'est qu'on sent que les gens, la première fois, ils étaient confinés, on retour aux sources, on va cuisiner. Là, sur la deuxième vague, bon, ça va, ils l'ont fait il y a quelques temps. Là, ils ont envie de simplicité. C'est assez stressant comme période.
Et puis les enfants restent à l'école. Hein. Donc, c'est-à-dire que la première vague, on avait les enfants avec nous. Donc, il fallait aussi s'organiser, repas familial. On ne pouvait pas vraiment travailler. Là, on continue à travailler.
Exactement, c'était l'annonce qu'on attendait hier. On va continuer à travailler. Il faut surtout pas arrêter, il ne faut surtout pas couper, il faut garder le lien. On développe des projets digitaux, donc c'est exactement l'objectif de Téléresto. Donc des projets digitaux qui permettent de changer la manière de travailler à domicile, donc avec des concepts qui permettent de faciliter la vie du télétravailleur, mais aussi, bon, je sais pas vous de votre côté, mais dans mon entourage, en tout cas, il y a pas mal de personnes qui avaient pris du poids pendant le confinement.
Ah oui, on a mangé beaucoup de pâtes, on l'a vu, il n'y avait plus de pâtes hein, dans les supermarchés.
Pâtes dans les magasins, et l'accès à une... Voilà, tout le monde ne sait pas cuisiner, tout le monde n'a pas envie, et comme vous le dites, maintenant les gens vont travailler, donc ils n'auront plus le temps, et c'est l'une des seules choses que l'employeur peut donner aujourd'hui, télétransporter, ça va être le repas. Auparavant, on se restaurait dans l'entreprise, maintenant on se restaure à la maison.
Oui, effectivement.
Et l'employeur peut vraiment apporter, nous c'est ce qu'on appelle la qualité de vie en télétravail, qui selon nous est un terme qui va devenir très commun. Comment améliorer la qualité de vie en télétravail, puisque on va devoir apprendre à vivre avec ce virus. C'est la deuxième vague, on ne sait pas
s'il y en aura une troisième ou pas. Oui.
Exactement. Donc autant la première fois, on s'était dit bon ben en sortie de confinement, reprenons nos habitudes en les adaptant un petit peu. Là, on se dit que le télétravail va perdurer et qu'il faut combiner entre les deux. Et pour ça, il faut apprendre à travailler en télétravail et rendre le télétravail un peu plus agréable également, parce que quand on est déjà tout seul toute la journée, pas d'interaction sociale, on doit manger tout seul derrière son assiette, le soir les enfants rentrent, on est confiné. Donc l'idée c'est d'apporter un petit peu de chaleur et de réconfort dans un moment crucial de la journée qui est la pause déjeuner.
C'est une très belle initiative effectivement, iLunch, hein, qui a été lancée en 2017, hein, il n'y a pas très longtemps finalement.
Il y a 3 ans et demi. C'est une société récente, mais très dynamique. On est plus de 40 collaborateurs aujourd'hui à œuvrer quotidiennement au développement de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui grandit très, très vite.
Alors, vous déployez jusqu'où, justement? Est-ce que vous êtes essentiellement sur l'Île-de-France ou finalement non? Vous travaillez avec des entreprises de la France entière?
Pour le moment, on est exclusivement en Île-de-France. On commence à avoir des demandes dans certaines villes. Donc, dans le plan de développement, il y a des ouvertures prévues en 2021. Et pour la partie livraison à domicile, nous allons étendre très 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 rapidement le concept au national.
Merci beaucoup Victoria Benaim pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de iLunch, cette cantine digitale zéro déchet qui souhaite justement révolutionner cette restauration d'entreprise. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine?
Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'occasion du dernier salon du vélo à Paris en septembre dernier, je vous avais parlé d'un gilet airbag pour cyclistes qui venait juste d'être lancé. Un gilet qui s'appelle BeSafe. Eh ben, j'ai voulu en savoir plus sur la société qui le fabrique. Je suis donc parti pour Dijon, juste avant le confinement, car c'est là qu'est basée cette entreprise qui s'appelle Elite, avec un H. Et j'ai pu discuter avec son fondateur, Gérard Thévenot, qui est ingénieur spécialisé dans la mécanique des fluides. Et il m'a expliqué comment cette aventure a débuté. Écoutez.
Par besoin, j'avais une société qui fabriquait des ailes delta, des ULM, des parapentes. Et c'est une activité dans laquelle on a beaucoup d'accidents. Et en 2000, j'en avais un petit peu marre de recevoir des coups de téléphone le lundi matin me disant « il y en a encore un qui s'est blessé, il y en a encore un qui s'est tué ». Donc j'ai voulu développer une protection à mettre sur soi. Mais en aéronautique, on n'avait qu'une dizaine de personnes à protéger en France par an, alors qu'en moto, à l'époque, on avait 800 morts par an. Donc c'était beaucoup plus utile, beaucoup plus intéressant de développer un produit pour la moto que pour l'aéronautique.
Est-ce que l'idée s'est imposée rapidement ?
Au début, quand on arrivait quand on en parlait aux motards ou quand on en parlait dans les magasins de moto, on était relativement mal reçus, je dirais, parce que c'était pas l'habitude. Tout comme la ceinture de sécurité en voiture, il faut un petit peu de temps pour que les personnes prennent l'habitude et prennent conscience de la sécurité, de la nécessité de ces dispositifs de sécurité.
Ensuite, je crois qu'il y a eu le marché des cavaliers et de l'équitation, et puis aujourd'hui, il y a une idée qui s'impose, c'est proposer aux cyclistes ce fameux gilet.
Effectivement, on a développé un produit vélo. Alors, il y a d'abord une partie détection de l'accident.
Donc, des capteurs.
Ce sont des capteurs qui sont placés sur le vélo et sur le cycliste. Si on détecte que c'est un accident, on va envoyer un signal pour percer une cartouche qui, elle, va gonfler un airbag qui va protéger le thorax, l'abdomen, le cou et toute la colonne vertébrale du bas de la tête jusqu'au coccyx.
Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Avec l'explosion de la circulation à vélo dans les villes, l'essor du vélo électrique, c'est vraiment nécessaire de se protéger. Comment se passe la fabrication de ce gilet ?
Alors, il faut savoir qu'il y a d'abord une longue phase de recherche et de développement. On étudie tous les paramètres liés aux accidents. Ensuite, on fabrique des prototypes qui sont ensuite testés en situation de crash test. Et enfin, c'est la phase de production proprement dite, qui consiste essentiellement à assembler et à monter l'airbag dans la veste. Et j'ai pu faire un tour des ateliers de la société Elite, notamment celui où on assemble la partie électronique de la veste. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici dans cet atelier ? Là, je vois des capteurs.
On est ici dans la salle d'assemblage de l'électronique. Donc on va assembler les composants et surtout contrôler les composants. Une fois qu'on a assemblé les composants, quand on touche des composants électroniques, une carte électronique, on peut avoir de l'électricité statique sur les doigts, détériorer les composants. Et donc une fois que tout est assemblé, on va mettre les composants dans leur boîtier, les noyer dans une résine pour qu'il n'y ait plus du tout d'interférences d'humidité, de corrosion. Et ensuite, on va les tester avec différentes machines. Donc vous avez ici une machine dans laquelle on met la carte qui est connectée à un ordinateur où on a développé un logiciel qui va contrôler la qualité de tous les composants, des soudures et du logiciel qu'on a mis dans le microprocesseur.
Est-ce qu'on peut rappeler la technologie qui est utilisée pour ces capteurs ?
Alors, il y a des accéléromètres pour mesurer. C'est pour mesurer une accélération sur trois axes. Hein. Donc, ces capteurs, ils vont mesurer ces mouvements. Vous avez aussi des gyros qui vont mesurer les vitesses de rotation. Alors, le microprocesseur, il va analyser tous ces signaux, les mouvements d'accélération et les mouvements de rotation sur le vélo, ainsi que ceux qui sont sur le pilote. Et en combinant tous ces éléments, on va pouvoir détecter une chute ou une non-chute.
Très, très intéressant cette visite, Thibaut.
Ben oui, on a prouvé plein de choses.
Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Bon, on poursuit la visite, si vous voulez. J'ai encore d'autres choses à vous raconter. Et notamment, je vous raconterai mon test d'un gilet airbag nomade.
Vous donnez de votre personne.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Thibaut. Nous sommes déjà à la fin de cette émission consacrée à cette France dynamique qui se réinvente face à ce confinement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio, pour découvrir d'autres entrepreneurs ingénieux et réactifs. En attendant, portez-vous bien et bon dimanche sur Sud Radio avec Alain Marty et Invino.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.